Bienvenue dans la première édition de la Wikinews Radio, présentée par Mikani et Savant Fou. Nous sommes le samedi 11 juillet 2009.
Monde.
Le chef d'Al-Qaïda en Irak appelle à attaquer les militaires américains. 9 juillet 2009. Abu Omar al-Baghdadi, chef de l'État islamique d'Irak, groupe lié au réseau extrémiste d'Al-Qaïda, exhorte à poursuivre les attaques contre les troupes américaines, même après leur retrait des villes et agglomérations du pays, rapporte jeudi le quotidien irakien Al-Zamam. Un enregistrement sonore de la voix du chef d'Al-Qaïda en Irak, dont les autorités avaient annoncé la capture il y a plus de 2 mois, a été diffusé une semaine après le retrait annoncé le 30 juin dernier des troupes américaines des villes et agglomérations du pays. La voix sur l'enregistrement appelle les groupes armés irakiens qui avaient autrefois aidé les Américains à chasser les commandos d'Al-Qaïda du pays à se rallier de nouveau à la résistance pour lutter contre le gouvernement. Fin avril, les forces de sécurité irakiennes ont annoncé l'arrestation d'Abu Omar al-Baghdadi, présenté comme le chef diabolique d'Al-Qaïda en Irak, responsable de dizaines d'attentats suicides dans le pays. Dans le passé, elles avaient déjà annoncé à 2 reprises sa mort ou son arrestation avant de se dédire. Le Pentagone a toujours refusé de confirmer formellement l'arrestation de Baghdadi. 6 juillet 2009. Pyongyang dépense 700 millions de dollars pour ses tests. La Corée du Nord a dépensé pour ses tests 700 millions de dollars au minimum, annoncent les médias sud-coréens, se référant à une source au gouvernement de la République de Corée. Cet argent aurait pu permettre de nourrir pendant 2 ans la population de ce pays, selon la source. Le tir de 7 missiles samedi dernier a coûté 43 millions de dollars à la RDPC. Le lancement effectué le 5 avril d'un missile balistique de longue portée est revenu à 300 millions de dollars à la Corée du Nord, a déclaré devant les journalistes la source du gouvernement de la République de Corée. 10 millions de dollars ont encore été dépensés au tir de 10 missiles de courte portée effectués ces dernières semaines. Le test nucléaire souterrain du 25 mai a été estimé par les experts sud-coréens à 300-400 millions de dollars. Pyongyang aurait pu acheter sur le marché international 1 million de tonnes de riz, ce qui aurait suffi à nourrir la population nord-coréenne durant une année entière, a ajouté la même source. À l'heure actuelle, selon les données recueillies en 2008 par les organismes de l'ONU, 9 millions de personnes souffrent de la faim en Corée du Nord, soit plus d'un tiers de la population. Le vice-président américain Joseph Biden a qualifié les tirs de samedi de tentatives pour attirer l'attention et a déclaré que les États-Unis poursuivraient leur politique d'isolement de Pyongyang. L'homme politique américain a souligné que cette ligne était soutenue par la Russie et la Chine, récemment encore meilleurs alliés de la Corée du Nord. Le 12 juin, ces deux pays ont soutenu le renforcement des sanctions contre Pyongyang. Les officiels de Washington et de Séoul sont convaincus que des mesures agressives prises par la Corée du Nord inciteront le leader nord-coréen Kim Jong-un à renforcer son influence avant de céder le pouvoir à son fils cadet. Le guide âgé de 67 ans serait, selon les nombreuses informations à son sujet, effectivement gravement malade. 6 juillet 2009. Tir de missile, Moscou appelle Pyongyang à la retenue. La Russie regrette la série de tirs de missiles nord-coréens réalisés ces derniers jours et appelle Pyongyang à revenir à la table des négociations, a déclaré lundi le porte-parole de la diplomatie russe, Andrei Nesterenko. 2 jours après une série de lancements, Pyongyang a procédé samedi à 7 nouveaux tirs de missiles de courte portée, près de 500 km. La série de tirs réalisés en Corée du Nord ces derniers jours n'est pas passée inaperçue. On ne saurait regretter que le fait qu'un État membre de l'ONU viole ostensiblement la résolution 1874 de son Conseil de sécurité et refuse obstinément de prêter l'oreille à la voix de la communauté internationale, notamment des États avec lesquels la RPDC est liée par des rapports traditionnellement étroits, a indiqué le diplomate dans une déclaration. La Russie exhorte la RPDC à ne pas commettre de nouveaux actes aggravant la situation dans la région déjà tendue et à revenir à la table des négociations, a ajouté M. Nesterenko. Nous retrouvons Mikani pour la section sport.
Coupe du monde de football de 2010. Grève illimitée sur les chantiers. 9 juillet 2009. Près de 70 000 ouvriers ont entamé une grève illimitée le 8 juillet 2009 sur les chantiers des stades de football qui accueilleront la Coupe du monde de football de 2010 en Afrique du Sud. C'est la première fois que cet événement sera organisé en Afrique. Les ouvriers réclament une hausse des salaires de 13%. Nous voulons 13%, ou bien nous serons en grève jusqu'en 2011. Les employeurs ne peuvent attendre aucune mésentéité de notre part, affirme le négociateur du NUM. Les entreprises refusent pour le moment une augmentation supérieure à 10%. Une réunion se tiendra aujourd'hui afin d'aboutir à des négociations. Cela pourrait entraîner des retards dans la livraison des principales infrastructures nécessaires à la compétition. Cependant, les organisateurs du Mondial maintiennent que l'Afrique du Sud sera prête pour la Coupe du Monde. 450 000 visiteurs seront attendus. Mathieu Moncourt a succombé à un infarctus cardiaque selon l'autopsie. 9 juillet 2009. Mathieu Moncourt, joueur de tennis français, a succombé à un infarctus cardiaque selon les résultats de l'autopsie. Des analyses toxicologiques pour déterminer une éventuelle présence de drogue ou de médicaments dans le corps de la victime sont en cours. Les résultats devraient être connus en fin de semaine. Moncourt était classé 119e joueur mondial à l'ATP. Il est découvert mort dans la nuit de lundi à mardi vers 1h du matin à la porte de son appartement à Boulogne-Billancourt. Il avait passé sa soirée chez Mathieu et Patrick Dominguez, directeur technique national de la Fédération française de tennis. La police les a entendus mardi. Il sera inhumé vendredi 10 juillet au crématorium de Mont-Valérien à Nanterre. Puis, une cérémonie d'hommage en présence de proches du joueur aura lieu à Roland-Garros. Tour de France 2009, Lance Armstrong est le champion des dopés selon Jean-Pierre de Mondenard. 8 juillet 2009, c'est dans une interview pour François que le médecin des Tours de France 73, 74 et 75, spécialiste du dopage Jean-Pierre de Mondenard, a déclaré au sujet de Lance Armstrong. Cela ne m'étonne pas, il a le potentiel pour remporter le Tour cette année. Il n'a plus ses jambes de 20 ans, mais à 38 ans, il a tout le bonus de l'expérience. Et puis, c'est bien connu, Armstrong a toujours carburé avec des produits dopants. Témoignages et analyses le prouvent. Ou c'est un mutant, ou c'est un menteur. Toujours est-il qu'il est le champion des dopés. Tant qu'il existera des substances prohibées dopantes, indécelables, Armstrong sera le meilleur et la lutte antidopage restera vouée à l'échec. Il ajoute qu'il souhaite qu'il remporte le tour, afin que cette gigantesque imposture soit révélée. Il nargue tout le monde, il est attendu comme le messie, les journalistes ainsi que le public n'attendent que lui. Pourtant, il pourrait ouvrir une quincaillerie avec toutes les casseroles qu'il a derrière lui. Il devrait être radié du tour. Aujourd'hui, la grande boucle est une injustice permanente. Car seuls quelques cas sont décelés alors que beaucoup se dopent. Le pire dans cette histoire, c'est que cette injustice renforce la volonté des tricheurs. Il y a actuellement un problème d'éthique et de règlement sur le tour. Les organisateurs qui doivent assurer la promotion du cyclisme mais aussi écarter les brebis galeuses qui se tirent une balle dans le pied en déroulant le tapis rouge à Armstrong. Il faut placer la lutte antidopage entre les mains de personnes indépendantes. Armstrong a un comportement de voyou et son retour est une défaite pour le tour. Malheureusement, il faut souhaiter la victoire d'Armstrong pour que le système explose. La ministre Roselyne Bachelot avait précisé que c'est l'UCI qui réalise les tests antidopage avec à ses côtés l'AFLD, qui est un organisme qui est financé à 95% par le ministère de la Santé français.
Après une semaine d'épreuves, Wikinews tire le bilan provisoire de cette 96e édition du Tour de France. Au départ de cette édition 2009, le Tour compte 180 coureurs qui représentent 30 pays différents. La première journée, un contre-la-montre disputé sur le circuit de Formule 1 dans les rues de Monaco est remporté par le Suisse Fabien Cancellara avec 18 secondes d'avance sur le favori de l'épreuve, l'Espagnol Alberto Contador, vainqueur en 2007. Lance Armstrong, dont c'est le retour sur le Tour, prend la 10e place avec 40 secondes d'écart sur le maillot jaune. La deuxième étape, qui relie Monaco à Brignoles, est marquée par l'échappée de 4 coureurs dont 2 français, Cyril Dessel et Stéphane Ogui. Mark Cavendish l'emporte au sprint alors qu'une chute jette quelques coureurs au sol dans les 700 derniers mètres de la course. Lors de la troisième étape, une échappée composée de Samuel Dumoulin et Maxime Bouet est rapidement rejointe par Coen de Cort et Ruben Pérez Moreno, comptant jusqu'à 12 minutes 45 secondes d'avance sur le peloton et finalement de se faire rattraper par Mark Cavendish, profitant d'une bordure provoquée par son équipe. Lors du contre-la-montre par équipe à Montpellier, l'équipe Astana s'impose. Lance Armstrong revient à la hauteur de Fabian Cancellara qui conserve alors son maillot jaune pour un écart de 22 centièmes de seconde. La cinquième étape est gagnée en solitaire par le coureur français Thomas Voeckler à Perpignan. À Barcelone, c'est le Norvégien Thor Husvold qui devance l'Espagnol Oscar Freire au sprint, malgré une longue échappée de l'Écossais David Millar, repris à 2 km de l'arrivée. En fin de semaine, le Tour arrive en montagne lors de la 7e étape, où 9 coureurs réussissent à s'échapper du peloton, dont Brice Feuillu, qui gagne l'étape seul au sommet d'Arcalis. C'est l'Italien Rinaldo Nocentini qui prend alors le maillot jaune avec 2 secondes d'écart avec Alberto Contador, auteur d'une attaque en fin d'ascension. Armstrong est classé 3e au classement général. 7 coureurs ont déjà abandonné la course. Santé.
Nouvelle souche de grippe au Canada. 8 juillet 2009, une nouvelle souche de grippe a été découverte chez 2 travailleurs d'une ferme porcine de la Saskatchewan. Il ne s'agit toutefois pas d'une nouvelle souche de la grippe AH1N1. Ceux qui ont été vaccinés pour la grippe saisonnière devront être immunisés contre cette nouvelle souche. Nous collaborons étroitement avec la Saskatchewan afin d'en apprendre le plus possible au sujet de ce nouveau virus, a déclaré Léona Aglukkaq, ministre de la Santé. Selon les résultats préliminaires, le risque pour la santé publique est faible et les Canadiens qui ont été vaccinés contre la grippe saisonnière devraient être en partie immunisés contre cette nouvelle souche de la grippe. Le Canada a informé l'OMS du dépistage de ce nouveau virus grippal comme l'exige le règlement sanitaire international de l'OMS, a indiqué le docteur David Buttle-Jones, administrateur en chef de la santé publique au Canada. Le Canada demeure vigilant et la population canadienne sera informée de tout fait nouveau. Rupert Grint, atteint de grippe A H1N1, 6 juillet 2009. Alors que Harry Potter et le prince de Sang-Mêlé est sur le point de sortir en salle et en plein tournage du prochain et dernier opus de la saga Harry Potter, Rupert Grint vient d'être atteint par la grippe A H1N1. L'acteur a donc quitté le tournage subitement. Néanmoins, son médecin a déclaré qu'il pourrait assister étant en état de convalescence à l'avant-première du Prince de Sang-Mêlé et de plus qu'il pourrait reprendre le tournage très rapidement.
Art et multimédia.
8 juillet 2009. Décès de Léo Moll, un artiste canadien. L'artiste et sculpteur canadien Léo Moll est décédé le 4 juillet 2009 à l'âge de 94 ans. Il a émigré au Canada en 1940 pour s'installer à Winnipeg, où il a créé des œuvres qui sont désormais exposées un peu partout sur la planète. Il est membre de l'Académie royale des arts du Canada et a été reçu dans l'Ordre du Canada en 1989 et dans l'Ordre du Manitoba en 2000. Pendant plus de 50 ans, Léo Moll s'est adonné à son art avec passion. Il a commencé à développer son talent artistique dès son plus jeune âge, et il a vécu la majeure partie de sa vie au Manitoba. Il a reçu de nombreuses distinctions, dont l'Ordre du Canada. Jamais nous n'oublierons son importante contribution au Manitoba et à l'ensemble du Canada, ont déclaré James Moore et Vic Toth. 8 juillet 2009. Ubisoft à Toronto. D'ici la fin de cette année, le nouveau studio de développement d'Ubisoft, à Toronto, sera lancé. Il créera 800 emplois au cours des 10 prochaines années dans la ville canadienne. Le studio a été financé de 263 millions de dollars de la part du gouvernement de l'Ontario et de 500 millions de dollars d'Ubisoft. Le studio montréalais ne craint pas qu'il soit plus difficile d'engager des programmeurs. Le plan que nous avions déjà annoncé d'avoir 3000 employés au Québec d'ici 2013 est encore valable. Nous sommes déjà à 2200, alors nous sommes peut-être même déjà un peu en avance, a déclaré Cédric Orvoine, directeur des communications du studio Ubisoft Montréal. 8 juillet 2009. Hier, à Londres, au Leicester Square, avait lieu la première mondiale de Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé, organisée par la Warner Bros., producteur de la saga. Malgré un temps peu clément, puisqu'il a plu toute la soirée, des centaines de fans ont pu découvrir ou redécouvrir leurs idoles. De nombreux acteurs ont assisté à cette avant-première, dont Daniel Radcliffe, Harry Potter, Emma Watson, Hermione Granger, Rupert Grint, Ron Weasley, Michael Gambon, Albus Dumbledore, Evanna Lynch, Luna Lovegood, Tom Felton, Drago Malfoy, ou encore Helena Bonham Carter, Bellatrix Lestrange. Chaque acteur présent portait un ruban blanc au poignet en l'hommage de Rob Knox, poignardé en mai 2008. J.K. Rowling aura également été présente pour assister à la projection du 6e opus de la saga. Durant toute la soirée, Leicester Square a été envahi par des fans. Par ailleurs, des gradins avaient été placés à divers endroits pour permettre de mieux apercevoir les acteurs et des extraits de la bande originale et de la bande-annonce ont été diffusés pour que l'atmosphère d'Harry Potter envahisse le parc. Le film sortira sur les écrans français le 15 juillet. Suite à cette première mondiale, quelques critiques ont publié leurs avis sur le film. Edward Douglas, pour ComingSoon.net. Je dois avouer que c'est l'adaptation la plus satisfaisante de la saga. Cela ne semble jamais précipité, ils ont pris le temps de raconter l'histoire. Les effets spéciaux sont magnifiques, ils ne semblent jamais forcés. À quelques exceptions près, tous les éléments essentiels du livre sont présents. Keir Connacott, pour Hollywood Reporter. Superbement emballé, sans doute moins clinquant que les épisodes précédents, ce film est un drame de vie et de mort bien plus convaincant que les autres. Todd McCarthy, pour Variety. Au niveau du divertissement, de l'aventure, de la romance et des frissons, c'est certainement le film qui élève le niveau des blockbusters de cet été. juillet 2009. La sonde LRO de la NASA a testé vendredi dernier ses caméras avec succès. Les images ont été prises à 70 km d'altitude du satellite au sud de Mare Nebium. La sonde est pour l'instant sur une orbite elliptique provisoire. L'orbite définitive sera atteinte prochainement à 50 km au-dessus des pôles. Le LRO, lancé en même temps que LCROSS le 18 juin, a pour mission d'étudier les cratères lunaires afin de préparer un retour d'astronautes sur la Lune d'ici 2020. La première image est disponible sur Wikinews. 12 juillet 2009. STS-127, le lancement est encore reporté. Le lancement de la navette spatiale américaine Endeavour est reporté d'une journée pour la troisième fois, à cause d'un orage vendredi dont un des éclairs a frappé le pas de tir. La NASA évalue donc en ce moment, pour des raisons de sécurité, les dégâts. La prochaine tentative est prévue pour dimanche à 13h13 GMT. Le lancement a déjà été reporté deux fois à cause d'une fuite d'hydrogène dans le réservoir extérieur. La mission STS-127, qui doit durer 16 jours dont 11 amarrés à l'ISS, devrait installer le troisième élément du laboratoire spatial japonais Kibo d'un poids de 1,9 tonnes. Météo en France, les prévisions pour le 13 juillet 2009. La journée de lundi sera marquée par une forte instabilité et par le retour des orages, lesquels risquent d'être violents en Bourgogne. Le matin, ce sera un temps nuageux que connaîtra le pays, avec des brouillards matinaux en Alsace. Ce temps mêlera averses, pluie et brune sur un périmètre comprenant la Vendée, la région parisienne, la Franche-Comté et le Limousin. Le ciel sera, en revanche, dégagé au sud du Massif central, en Rhône-Alpes et en Corse. Les températures seront fraîches pour la saison avec des minimales, pour le nord, allant de 12 degrés notamment à Lille à 17 degrés à Dijon. Au sud, elles seront comprises entre 14 degrés à Aurillac et 21 degrés à Perpignan. L'après-midi, le soleil fera son apparition sur de nouvelles régions comme la Côte d'Azur et le Midi-Pyrénées en début d'après-midi. En revanche, la couverture nuageuse, avec quelques éclaircies, persistera sur la moitié nord-ouest de la France. De rares averses pourront faire irruption sur une bande comprise entre Charente-Aquitaine et Ardennes-Alsace. Des vents de sud à sud-ouest souffleront en région Rhône-Alpes avec des rafales pouvant aller de 55 à 75 km/h dans l'Ain, le Rhône, l'Isère et le sud de l'Ardèche. Les températures seront plus de saison avec des maximales pour le nord allant de 20 degrés à Brest à 29 degrés à Dijon. Au sud, elles seront plus lourdes, de 25 degrés à Bayonne à 34 degrés à Grenoble. En soirée, cette journée se terminera par des orages. Ils couvriront une bande partant de la Lorraine pour finir sur la moitié ouest des Pyrénées. Météo France annonce que ces orages risqueront d'être violents dans les départements de la Saône-et-Loire, plus précisément du Chalonnais au Charolais. Les vents continueront de souffler en Rhône-Alpes avec des rafales similaires à l'exception de l'Ardèche, où la situation reviendra à la normale. En outre, des vents de sud-ouest commenceront à souffler dès l'après-midi, sur la Bretagne, avec des rafales pouvant notamment aller jusqu'à 65 km/h sur le Finistère. Cet article réutilise les données datées du 12 juillet 2009 à 13h30, selon les droits de reproduction de Météo France. conformément à la loi numéro 78-753 du 17 juillet 1978, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leur source et leur date de dernière mise à jour soient mentionnées. Les cartes et tableaux sont disponibles sur Wikinews. C'est la fin de cette première édition qui a été mixée par Savanfou, les parties sport et santé vous ont été présentées par Mikani, les autres par Savanfou. Les auteurs originaux des textes sont Moig, Vic, Mikani, Grondin, Sniff, Savanfou et Steph48. Les musiques ont été produites par la NASA, Malfidus et RiricQ. La prochaine diffusion aura lieu dimanche prochain à 18h UTC. À la prochaine !